6-9 de l'été. Pierre Veille sur France Inter.
Et un mot à propos du jeu des 1000 euros qui reprend la route. Rendez-vous en Bretagne pour des enregistrements du jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet aujourd'hui dans les Côtes d'Armor à Plessin-les-Grèves à 18h30 à l'espace Anne Dourmeur et demain dans le Finistère à Ploumoguer également à 18h30 la salle Océane. C'est la revue de presse sur France Inter avec Virginie Pironeau. Bonjour Virginie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
La revue de presse et on commence ce matin avec ce cocorico, la France, première destination touristique mondiale.
Avec plus de 89 millions de visiteurs l'année dernière, nouveau record historique, le pays revendique d'être celui au monde qui accueille le plus de visiteurs étrangers. Ces chiffres, on les égrène avec fierté, on en fait chaque année des articles optimistes et des communiqués triomphants, mais sans s'interroger sur leur impact pour les habitants. Tourisme, la masse critique, titre à sa une Libération, avec une photo idyllique de la Grande Bleue, mais où les parasols s'entrechoquent sur la plage. Les bronzés font du souci, écrit le quotidien, car si le tourisme de masse est un revenu majeur pour la France, il est aussi source de problèmes épineux. Une invasion pacifique qui peut vite tourner au cauchemar pour les habitants. La vie est plus chère, les loyers augmentent. Résultat, certains sont contraints de s'éloigner quand ceux qui restent, eux, doivent supporter les nuisances, embouteillages, déchets et autres dégradations. Et ça se complique encore un peu plus pour les petites communes, nos plus beaux villages de France, si souvent mis à l'honneur. C'est à lire dans le Figaro cette fois. Baisse des dotations de l'État, la parade des villages touristiques. Comment faire face à la déferlante avec le budget d'une commune d'une poignée d'habitants? À Saint-Paul-de-Vence, 3400 habitants, 1 million de visiteurs par an, un candidat au municipal lance cette idée. Pourquoi ne pas faire payer l'entrée au village? Le débat est lancé. À défaut de droit d'entrée, pour l'instant, la solution des parkings payants s'impose de plus en plus. C'est le cas déjà à Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault ou la Roque-Gageac en Dordogne. 1500 places également devenues payantes ce mois d'août, non loin de là, à Rocamadour, 1,5 million de visiteurs. Objectif, financer l'entretien du site, l'accueil des touristes et des rénovations patrimoniales très coûteuses.
Autre fléau lié au tourisme de masse, Virginie, c'est celui des cairns qui se multiplient sur les lieux de promenade.
À lire dans Le Parisien ce matin, vacanciers, arrêtez d'empiler des pierres, car c'est la grande tendance partagée ensuite par les touristes sur les réseaux sociaux comme Instagram, faire de petits tas de pierres, des cairns donc, dont la vocation initiale était, c'est bien de le rappeler, d'aider les promeneurs à retrouver leur chemin. Mais à cette dose, c'est une atteinte à l'écosystème. Exemple, plusieurs centaines de tas réalisés chaque jour au Cap Fréhel dans les Côtes d'Armor. Les promeneurs qui finissent par manquer de galets vont piocher dans les pierres des falaises, accélérant l'érosion. Et on atteint le sommet au Cap Corse où là, sans même s'en apercevoir, les touristes piochent directement dans des murs en terrasses ancestraux.
L'accroissement du tourisme, Virginie, qui peut avoir des conséquences encore plus néfastes.
Une population mondiale qui augmente et de plus en plus de touristes. Statistiquement, cela multiplie les occasions de rencontre avec les ours. Et c'est ce qui est arrivé à un Français, Julien, 44 ans, tué par un grizzly le 15 août alors qu'il bivouaquait dans les territoires du Grand Ouest canadien. L'ours l'a saisi au cou et à l'épaule avant de l'emporter dans la forêt. Habitant de Seine-Saint-Denis, compositeur, preneur de son, Julien était accompagné d'une jeune femme, Camille, biologiste. Tous les deux préparé cette aventure depuis 3 ans, il voulait enregistrer et s'inspirer de sons insolites pour une création musicale et une exposition en région parisienne. Julien Gauthier avait déjà fait ça aux îles Kerguelen en Antarctique. Sa symphonie australe avait été jouée par l'Orchestre de Bretagne et diffusée sur France Musique l'année dernière.
Autre sujet à la une de la presse ce matin, le spectre de la récession qui ressurgit aux quatre coins de la planète.
Cette fois, le mot est lâché en une des échos. La perspective d'une récession aux États-Unis se confirme. Alors pas tout de suite, mais dans les 2 années qui viennent, selon 226 économistes du monde entier. Pour l'instant, les banques centrales, la Fed notamment, mènent une politique monétaire accommodante qui réussit encore à retarder l'échéance. Mais ce volontarisme ne doit toutefois pas tromper, souligne Lucie Robkins dans son éditorial. Les marges de manœuvre monétaires sont devenues quasi nulles et les banquiers centraux ne pourront pas pallier indéfiniment la faiblesse des États. Récession, le mot est là aussi lâché dans le Figaro Économie en Allemagne, ce qui a longtemps constitué la force de la locomotive de l'Europe, écrit le quotidien. C'est son industrie tournée vers l'exportation. Et cette force est en train de se muer en faiblesse. Les exportations contribuent au PIB allemand à hauteur de 40%. Dans le contexte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la demande mondiale du Made in Germany recule. Et pendant ce temps, les dirigeants, eux, n'affichent pas leurs inquiétudes. Les pays du G7 s'apprêtent à converger vers Biarritz vendredi sans panique apparente.
Rester calme en toutes circonstances, avoir les nerfs solides, de l'endurance, ce n'est pas l'apanage des dirigeants du G7.
Gros plan ce matin. matin dans Libération sur un métier méconnu pour lequel, oui, il faut savoir garder ses nerfs. Convoyeur d'œuvres d'art et en particulier de toiles quand les musées font des prêts pour une exposition exceptionnelle, par exemple. Souvent, ce sont les conservateurs eux-mêmes qui sont du voyage. Véritables gestionnaires de risques, ils se rendent parfois à l'autre bout du monde et les aléas sont nombreux. Il y a d'abord le constat au départ, l'emballage et puis le voyage par l'autoroute, en train ou en avion. La caisse étant banalisée, sécurité oblige, il faut vérifier qu'elle ne se retrouve pas sous d'autres paquets, que la chaîne climatique est bien préservée, qu'il n'y ait ni produits toxiques, animaux, plantes qui pourraient les abîmer. Qualité requise, savoir s'adapter. Il faut avoir un peu de bouteille, explique Sophie Deins Diallo du musée Picasso, pour faire respecter nos œuvres tout en restant poli et civilisé. Refuser par exemple qu'une caisse soit ouverte sur le bas-côté d'une voie rapide. Mais à l'arrivée, on se sent, dit-elle, comme le Père Noël. C'est une émotion extrêmement forte, surtout dans des endroits qui n'ont jamais reçu d'œuvres, où parfois des moyens incroyables ont été mis en place, comme au Maroc, où la garde royale avait privatisé l'autoroute pour nous.
Le musée du Louvre lui prête environ 1000 œuvres par an.
On parlait tout à l'heure du tourisme de masse, Pierre. Le Louvre, c'est le musée le plus fréquenté au monde, avec plus de 10 millions de visiteurs par an. Et en ce moment, c'est à lire dans la Croix, complètement débordé par le succès de la Joconde. Une folie. Le 17 juillet, Mona Lisa a déménagé de la salle des États en rénovation vers la galerie Médicis. Et ça ne va pas du tout. Sous la pyramide de verre, après des heures d'attente, la queue pour la Joconde serpente sur plusieurs dizaines de mètres. Son accès se fait quasi directement depuis des escaliers mécaniques, ce qui provoque des embouteillages monstres. La journaliste de la Croix, Sabine Gignoux, écrit... Posté tous les 10 mètres, le visage crispé, les gardiens se sont mués en agents de la circulation, faisant des moulinets, criant « Don't stop moving !» Au moment d'accéder au dernier carré, à 2 ou 3 mètres du chef-d'œuvre, les touristes courent pour se poster en première ligne, une minute dans une nuée de têtes et d'appareils photo pour admirer le tableau tant convoité. C'est aussi ça, le tourisme de masse.
La revue de presse, c'était Virginie Pironon. Merci Virginie.